France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Savez-vous qu'on évalue à 1 600 000 le nombre de personnes souffrant de troubles bipolaires en France? Savez-vous qu'en moyenne et pour 20% des patients, on met encore 15 ans à diagnostiquer correctement un patient souffrant de troubles bipolaires? Entre-temps, on a confondu son trouble parfois avec une dépression tout simplement, avec une schizophrénie parfois. Entre-temps, quand il s'agit d'un ado, on a jugé que ses sautes d'humeur, c'était aussi de son âge. Heureusement, même lentement, là-dessus, sur le diagnostic, on progresse et c'est tant mieux parce que les retards de diagnostic aggravent les troubles anxieux, les addictions qui parfois vont avec la maladie. On progresse aussi sur les traitements et on y viendra, et peut-être sur la compréhension du trouble bipolaire. On est encore loin du compte, mais c'est important d'y revenir tous les ans à l'occasion de cette journée mondiale des troubles bipolaires. Vous nous raconterez peut-être ce soir votre parcours, vous êtes déjà très nombreux et c'est tant mieux. Votre vie aujourd'hui, votre travail, vous qui vivez avec un trouble bipolaire, vous qui êtes un proche d'un patient avec un trouble bipolaire, parce que autour du patient, et c'est important aussi que nous soyons tous sensibilisés, il y a ce que chacun de nous ignore, ce que chacun de nous sait parfois. Il y a nous, les proches, les familles, les collègues, et puis bien sûr aussi les médecins, les généralistes, tout simplement ce qu'on voit chez nous, près de chez nous en tout cas. C'est le téléphone sonne ce soir, et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première, c'est vous, Laure, soyez la bienvenue, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde.
On vous écoute, Laure.
Bien, moi j'ai connu un petit peu le parcours que vous avez décrit dès le début. C'est-à-dire que le mal-être a commencé vers l'adolescence, vers 16 et 17 ans. C'est empiré vers les 18-19 ans et je n'ai été diagnostiquée bipolaire qu'à 25 ans. Voilà, avant c'était crise d'adolescence, ensuite c'était plutôt dépression. Et puis j'ai été diagnostiquée, donc un traitement a été mis en place, j'ai été stabilisée. J'ai fait ma vie personnelle et j'ai voulu construire une vie familiale, ce qui n'est pas non plus facile quand on est bipolaire, puisque ça veut dire suspension des traitements pendant de temps. Donc c'est très compliqué, mais j'ai réussi quand même à avoir mes deux enfants. Voilà. Et donc aujourd'hui, je travaille, j'ai une vie stable, je suis suivie par une psychiatre une fois par semaine. Ce que je voulais témoigner aujourd'hui, c'est la difficulté en fait de cette maladie qui se passe souvent dans l'ombre. Puisque c'est une maladie que l'on ne peut pas dévoiler, qui change le regard des autres. Quand vous êtes un petit peu en confiance et que vous vous dites « bah tiens, je peux lui dire ce que je suis », et en fait, vous vous retrouvez avec des personnes qui vous tournent le dos. Ma famille, par exemple, n'a jamais compris cette pathologie. A toujours mis ça sur un côté caractériel, en disant que j'étais une personne compliquée. Voilà, et je voulais aussi témoigner par rapport au traitement, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point il est difficile de trouver le bon traitement, que c'est des années d'essai avec des effets secondaires importants, et qu'au quotidien, moi j'ai des médicaments à prendre, matin, midi, 18h et soir. Et donc ça implique forcément, si vous êtes invité chez des amis, par exemple, le traitement avec vous, de le prendre en cachette, d'aller aux toilettes, quand vous regardez l'heure et qu'il est l'heure...
Ça veut dire, Laure, qu'à part votre famille proche, personne n'est au courant, en fait. Enfin, je vous entends, j'ai l'impression que seuls ceux qui vous ont vu, en fait, dans un état particulier, donc vous avez bien dû donner des explications, donc eux le savent, mais tous ceux qui ne vous ont jamais vu ne savent rien autour de vous.
La plupart au travail, en tout cas, ils ne le savent pas. Voilà, et quand dans la vie personnelle, je me rapproche d'une personne, par exemple, je ne sais pas, ça va être une maman d'école, par exemple, d'école, puis qui va devenir une copine. Si jamais je suis amenée à un moment donné de le dire, puisque parfois j'essaye quand même de le dire, certaines personnes peuvent s'éloigner. Même c'est arrivé très très souvent dans ma vie sociale. Voilà, ceux qui sont vraiment autour de moi, ce sont vraiment les personnes qui m'acceptent comme je suis, dans les bons comme dans les mauvais moments.
Merci beaucoup, Laure. Merci vraiment pour votre témoignage, pour ce joli témoignage. Et merci d'avoir ouvert le débat si large, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre question. Je vais vous présenter tous les gens qui sont autour de la table et dans l'ordre, si j'ose dire, autour de moi. Il y a d'abord Victoria Leroy, bonsoir. Vous êtes la cofondatrice de la Maison Perchée, qui est une association qui vise à accompagner les jeunes souffrant de troubles psychiatriques. Vous allez nous expliquer ça. Chantal Henry est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de psychiatrie au GHU psychiatrie et neurosciences de Sainte-Anne. Et puis, Jocelyn Wenou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de psychiatrie au CHU Henri Mondor. Vous êtes chercheur en neurosciences à la Fondation Fondamentale. J'ai envie de commencer avec vous, Victoria Leroy, ce que nous décrit Laure. J'imagine que vous connaissez ça par cœur et que vous l'avez entendu des dizaines de fois. Peut-être même que vous l'avez dit vous-même, en fait.
Je l'ai vécu, je l'ai dit et je l'entends beaucoup désormais à la Maison Perchée, puisqu'on est une association d'usagers fondée sur la père aidance. Donc on est non médicalisé, on s'entraide entre personnes avec notamment un trouble bipolaire. Avant de le dire, je l'ai tue pendant des années. Moi j'étais diagnostiquée à l'âge de 20 ans, donc pendant 7 ans j'ai très peu parlé de ma maladie. Mmh. J'ai quand même eu la chance de pouvoir m'en parler à mes amis qui m'ont énormément soutenue. Ma famille était au courant mais était dans le déni en fait, énormément, jusqu'à une grande rechute. Effectivement, j'entends totalement ce qui est dit dans ce témoignage, que le dire a un coût. Qui est non négligeable, mais finalement, pour moi, ne pas le dire a eu le coup d'en arriver à tenter d'ôter ma vie. Mmh. Et donc, depuis, j'en parle parce que finalement, le poids du silence est très très lourd et je pense que voilà, plus on sera aussi à montrer différents visages de la maladie, plus on montrera qu'il n'y a pas une maladie, une bipolarité et les clichés qui vont avec.
Chantal Henry, ça dit ce témoignage et ce que nous dit Victoria aussi, jusqu'à quel point effectivement il faut en parler, parce que pourquoi selon vous, la bipolarité est-elle toujours sous le tapis réellement? Et pourquoi aussi, parce que je pense que ça y participe, Victoria dit la même chose que Laure, de toute façon on ne croit pas, on croit que, je ne sais plus quel est le terme qu'avait utilisé Laure, mais que j'étais quelqu'un de difficile en fait, donc il y a une espèce de déni, ça fait aussi peur que ça, la bipolarité, c'est pour ça?
Je pense que les pathologies psychiatriques, de manière générale, de manière générale, effectivement, sont stigmatisées parce qu'on ne les comprend pas bien et parce que aussi, très souvent, on associe. Alors, l'auditrice parlait en fait de troubles du caractère, mais aussi c'est associé souvent la dépression à une faiblesse de caractère, en fait. C'est parce qu'on n'arrive pas à faire entendre que ce sont des pathologies, en fait, qu'à un moment donné, il y a un bug du cerveau et que c'est trop souvent associé à un état de tristesse, en fait, alors que c'est bien au-delà de la tristesse, la dépression, de la bipolarité.
C'est pour ça qu'on met tant de temps, d'ailleurs, dans le diagnostic, parce qu'il y a beaucoup de gens d'abord dont on pense qu'ils sont dépressifs, en fait. C'est ça, le premier diagnostic qui est posé, en général.
Oui, parce que très souvent, en fait, dans 60% des cas, les patients vont commencer par la pathologie, par des dépressions, des récurrences dépressives, ou alors que les épisodes d'exaltation seront finalement relativement modérés, et si on ne va pas les rechercher
donc
activement...
Donc on ne les voit pas, en fait, c'est ça l'idée,
voilà,
on ne s'en rend pas compte.
Les patients ne vont pas les rapporter comme étant des choses pathologiques, et donc ils vont venir chercher des soins quand ils sont en état de souffrance et donc quand ils sont déprimés, en fait, et qu'ils ont éventuellement des idées suicidaires.
Jocelyn Wenou, vous allez quand même essayer de nous mettre un peu d'optimisme dans ce début de conversation, parce que tout ce qu'on entend est vrai. Vous allez voir que la plupart des témoignages disent la même chose: première crise autour de 16 et 17 ans, et puis diagnostic 10, 15 parfois, même un peu plus tard. Est-ce qu'on est meilleur quand même? Est-ce qu'on progresse?
Oui, je pense aussi que le diagnostic, alors il y a des bonnes raisons pour lesquels on a du mal. C'est vrai que quand ça commence par une dépression, le trouble bipolaire, aujourd'hui, on n'a pas de signes objectifs pour porter.
Il n'y a rien qui pointe réellement pour dire... Il n'y a rien qui s'allume, qui dit attention, peut-être trouble bipolaire, c'est ça que
on peut avoir quelques suspicions, mais vraiment rien qui pointe, effectivement, clairement. Et puis, il y a quand même des mauvaises raisons pour lesquelles le diagnostic est retardé. C'est que, y compris parmi les médecins, le trouble bipolaire est quand même relativement mal connu. Ça conduit à une certaine errance diagnostique. Alors, c'est pour ça aussi que des journées et des émissions comme aujourd'hui sont très importantes pour mieux informer la population, mais aussi sensibiliser tout le monde à un diagnostic plus précoce. Et quand même, on raccourcit un petit peu le délai.
Jocelyn Wenou dit, Chantal Henry, les gens ne savent pas, et les médecins non plus, en fait. Moi, j'ai un peu l'impression que les bras m'en tombent quand on entend que même les médecins, le médecin généraliste n'a aucun signaux qui s'allume, en fait.
Il sait repérer les dépressions, mais en fait, la bipolarité sur les bancs de la fac, c'est 2 heures d'enseignement sur la bipolarité. Donc, traquer les épisodes d'exaltation, c'est pas si simple que ça. Et puis mieux caractériser la dépression aussi, c'est important, parce qu'il va avoir du mal finalement, souvent lors des premiers symptômes, à dissocier de ce qui est une humeur un peu réactionnelle, notamment à l'adolescence où il y a de temps en temps une effervescence émotionnelle, des espèces de d'oscillations de l'humeur, qui fait qu'il va avoir du mal à faire ce diagnostic de dépression maladie et d'évaluer ces fluctuations de l'humeur avec ces périodes d'exaltation.
Laurette, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Laurette.
Moi, j'ai été diagnostiquée très tard aussi. La première fois, je dis première fois parce que j'ai eu deux diagnostics, c'était il y a 7-8 ans. J'ai pas du tout accepté le fait d'avoir un trouble bipolaire parce que je me reconnaissais absolument pas dans les épisodes maniaques. C'est aussi le problème de la maladie, c'est qu'on stigmatise les phases de dépression et des épisodes de manie ou d'hypomanie, alors que chaque patient est différent et la maladie s'exprime de façon différente pour chacun. Donc moi, par exemple, j'étais plutôt sur des épisodes dépressifs avec peu d'épisodes d'hypomanie. Voilà, le mélange des genres fait que, et puis il y a le côté héréditaire aussi de la maladie. Mon dernier diagnostic a été posé il y a quelques mois et il a été fait en deux minutes en racontant l'histoire de mon père, de ma grand-mère.
On va en parler effectivement de ce côté héréditaire. Moi, je trouve important, Laurette, merci beaucoup, Victoria Leroy, ce que nous dit Laurette sur, évidemment que toutes les formes ne se ressemblent pas de troubles bipolaires. C'est pas comme si on pouvait rentrer dans une case, en fait, et se dire, bah, très bien, je suis bien dans ma boîte, je sais exactement ce que c'est. Et c'est pour ça qu'elle dit, elle, moi, au début, je voulais pas, en fait, parce que l'image qu'on en a, en plus, est très exagérée, évidemment.
Oui, effectivement. Enfin, l'image est exagérée. C'est surtout que je pense qu'elle est partielle et que la gravité de la maladie est montrée que sous certains de ses angles. Alors moi, je donnerais le témoignage inverse, qui est que pour moi, ce qui était le plus stigmatisant, c'était au contraire la manie, parce que moi, j'ai eu des bouffées délirantes très aiguës, avec des comportements particulièrement.
C'est la différence entre manie et hypomanie d'ailleurs. En hypomanie, c'est que les périodes de délirantes sont plus faibles.
Quand on parle d'hypomanie ou de manie, on est effectivement dans des phases d'exaltation de l'humeur, avec un sentiment de surpuissance, souvent de la logorée, une humeur particulièrement joyeuse, beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie, souvent dormant. Moi j'ai fait en tout cas beaucoup d'épisodes d'hypomanie. Personnellement, quand je pars en manie, là ça finit par se voir parce que c'est des bouffées délirantes. Mais c'est vrai que quand on parlait de la difficulté parfois de faire la distinction entre qui on est et qu'est-ce qui devient pathologique, c'est très compliqué. Dans mon cas, je suis designer, donc je faisais des écoles d'art. Donc en fait, les moments où je suis partie en manie, c'était limite un bonus dans ma créativité. Et effectivement, c'est pas les moments où je suis allée chercher les conseils des médecins. Mais c'est aussi des choses qui peuvent être très stigmatisantes. Et puis, il y a aussi la question par rapport à ce que disait Laurette, je pense, de l'annonce du diagnostic. C'est-à-dire que quand on le reçoit, non seulement on n'a pas envie de le recevoir, parce que qu'est-ce que ça veut dire encore aujourd'hui être bipolaire? Ça veut dire être fou. Mais aussi, en tout cas, mon expérience, et notamment à Sainte-Anne, ça a été de ressortir avec un papier après un très long questionnaire et d'autres entretiens avec les psys qui disaient, ben voilà, vous êtes bipolaire de type 1, parce que bon, après ça, il y a des conflits, mais il y a différents types de bipolarité. Et je me suis retrouvée avec cette feuille et je me suis dit, je fais quoi entre ça, mon prochain rendez-vous psy, à qui je le dis? Et on commence à réfléchir maintenant à comment on annonce ce diagnostic au patient, mais aussi à ce qu'on lui propose à son entourage. Quand on annonce un cancer à quelqu'un, en général, on prévient un peu qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle et on propose de venir avec un parent, un ami, quelqu'un. Donc je pense qu'il y a effectivement des enjeux comme des journées aujourd'hui qui sont la déstigmatisation, mais il y a aussi au sein même de l'hôpital ou de la prise en charge, cette phase d'annonce et de prise en compte de la maladie, il y a un travail à faire là-dessus aussi.
On va parler d'hérédité dans un instant, mais vous avez dit une chose, Victoria Leroy, que j'ai retrouvée dans une vidéo YouTube que vous avez fait tout simplement, c'était, je crois, pour présenter la Maison Perchée. Vous dites, et j'ai trouvé ça très joli, qu'il faut effectivement toucher du doigt la frontière, en fait, entre ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses, vous êtes artiste, puisque c'est aussi votre métier, donc on a bien compris ce que ça peut vouloir dire parfois dans certaines phases, vous dites il y a des choses auxquelles qu'il faut que j'annule chez moi en fait. Et ça, c'est un sacré travail quand même, j'imagine.
Ouais, c'est extrêmement difficile et c'est quelque chose qu'on retrouve, hein, au sein de la communauté de la Maison Perchée. C'est de quelle est la limite entre qui je suis et qu'est-ce qui est de l'ordre de la maladie, et ensuite qu'est-ce que j'annule et qu'est-ce que je garde avec les traitements. C'est-à-dire que je connais des personnes à la Maison Perchée qui vont préférer avoir une humeur vraiment plutôt bien, ce qu'on va appeler lissée, par les médicaments et qui vont se sentir bien comme
mais
ça.
Mais est-ce qu'on a le choix de ce qu'on garde ou ce qu'on
garde? Non, on n'a pas le choix. Déjà, il faut trouver un médicament avec lequel ça va.
Et moi, le dosage, j'imagine.
Ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, j'ai des médicaments qui m'ont tellement lissé l'humeur que finalement, ça m'intéressait assez peu de vivre ma vie, donc ça revenait à être assez déprimée. Et dans tous les cas, par contre, ce que je dirais, c'est que il y a des compromis. Et moi, par exemple, j'ai préféré faire des compromis sur des symptômes physiologiques et un peu moins sur ce que ça me coûtait en termes de vitesse de la pensée, de créativité. Pour certaines personnes, ça sera d'autres compromis.
Ce que ça veut dire, Chantal Henry, c'est qu'en écoutant Victoria Leroy, on s'en rend vraiment compte. À un moment, il faut la connaître, sa maladie. C'est le cas pour toutes les maladies, mais particulièrement là, peut-être parce que en fonction effectivement du type de médicament qui convient, qui convient pas, qui permet d'être toujours vraiment là, de faire appel à sa créativité ou d'accepter d'en mettre sous le tapis une partie, ça prend un temps infini tout ça. À la fois de se connaître et de savoir quel est le bon traitement, ça prend combien de temps?
Bien sûr,
il y a une moyenne?
Déjà, il faut accepter effectivement ce diagnostic, puis ensuite essayer de... Parfois les patients effectivement disent qu'ils n'arrivent pas à se repérer entre ce que sont les symptômes et ce que sont leurs personnalités. Ouais. Il faut essayer de gommer le plus possible ces phases et de pouvoir faire repérer aux patients des signes très précoces qui vont pouvoir annoncer une rechute. Et là, quand le patient arrive à repérer ces signes précoces, finalement, on peut assez rapidement contrôler les épisodes. Et puis ensuite, il faut vraiment tenir compte en fait du désir du patient et de voir de pas trop l'abraser, parce qu'autrement on peut induire des symptômes dépressifs résiduels qui impactent le fonctionnement et qui sont insupportables pour les patients. Donc c'est vraiment un ajustement qu'on va devoir faire et c'est avancer pas à pas vraiment avec le patient mais aussi avec les apparentés. C'est extrêmement important, je pense, qu'il y ait cette boucle en fait pour arriver à contrôler cette pathologie.
Et pour que les autres aussi soient capables, les apparentés comme vous dites, de repérer un certain nombre de signes et de signaux et de symptômes, non, peut-être.
Bien sûr.
Pour être capable. Vous avez eu besoin, parfois, j'imagine, Victoria, qu'on vous tape sur l'épaule en vous disant, dites donc, est-ce qu'on n'est pas là en train de dériver vers quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce que vous l'entendez quand on vous tape sur l'épaule en vous disant ça ou pas?
Je ne sais pas si j'en ai besoin, mais en tout cas, ça m'arrive, avec ses bons et ses mauvais côtés. Il y a une époque où ça m'est beaucoup trop arrivé, je pense, parce que les gens ont eu très peur. Parce que voilà, encore une fois, dans les bouffées délirantes, moi, je me suis mis dans des situations extrêmement dangereuses et donc c'est devenu un problème quand j'étais de bonne humeur, on me tapait exactement sur l'épaule en me disant, dis non, tu es de bonne humeur, Victoria, est-ce que ça va? Oui, bah ça va, du coup, je suis de bonne humeur. mais je comprenais l'inquiétude, donc il y a ça aussi dans le rétablissement, il y a comprendre aussi dans le regard de l'autre. En revanche, maintenant, déjà, effectivement, comme vous le disiez très justement, je sais identifier certains signes moi-même de quand ça dérape, donc j'ai pas forcément besoin qu'on me le dise, mais par exemple avec mon amoureux actuellement, de temps en temps, rarement, il va me dire là, t'es quand même speed, tu parles particulièrement vite, j'ai du mal là-dessus, j'étais très énervée, etc. Et en général, je vais être d'accord avec lui tout simplement parce que je les connais, ces signes, et il me connaît assez bien pour pas me le dire trop souvent et pas mélanger ça avec je suis de bonne humeur et c'est mon anniversaire aujourd'hui, mais là j'enchaîne un petit peu, je vais me calmer. Mais c'est important, effectivement, de faire passer ce message aux proches. Je pense que c'est très important la psychoéducation auprès des proches qui sachent reconnaître les signes, mais de ne pas non plus emprisonner la personne dans son diagnostic, de ne pas tout attribuer non plus à la maladie et d'être dans du dialogue.
Le droit d'être très gai, on a le droit d'être triste aussi, et pour autant...
Donc l'important, c'est ça, c'est le dialogue, et c'est d'apprendre à dire, ok, là je t'inquiète, pourquoi je t'inquiète, discutons-en.
Et être capable, de votre côté, de dire oui, t'as raison, ou alors non, pas du tout.
Oui, bah, des fois, je dis oui, je vais aller prendre un cachet. Ça m'arrive.
Jocelyn Winou, notre auditrice, nous a parlé d'hérédité à l'instant. Il y a plein de messages autour de l'hérédité. Qu'est-ce qu'on en dit de ça?
Alors, il y a une part héréditaire dans l'origine du trouble bipolaire. Alors, on n'est pas comme dans une pathologie comme les myopathies ou l'hémophilie, où on a une transmission un peu directe entre ascendant et descendant. Là, c'est plutôt que l'hérédité va augmenter un peu le risque de trouble bipolaire. Donc, en gros, dans la population générale, le trouble bipolaire, ça touche 0,5 à 1% des adultes. Si on a un apparenté au premier degré, c'est-à-dire un père, une mère, un frère ou une sœur qui souffre de troubles bipolaires, on a autour de 10% de risque de développer un trouble bipolaire, sachant que ça mêle à la fois la génétique et puis aussi ce qu'on appelle l'environnement commun. On a tous, dans une même famille, on a tous un environnement un peu commun. Mais on est quand même sûr qu'il y a une part de génétique. Et pareil, il n'y a pas un gène, mais plutôt une myriade de gènes qui augmentent chacun un tout petit peu le risque.
J'ai lu, c'est chez vous, c'est chez Fondamental que j'ai lu des choses, notamment sur lorsqu'on a été exposé à un certain nombre de traumatismes dans l'enfance ou des choses de ce genre-là, jusqu'à quel point il faut mettre du poids et des vraies raisons derrière ces choses-là.
Alors, je disais, il y a des raisons, il y a des origines, on va dire, un peu familiales, génétiques, et d'autres causes un peu héréditaires, enfin, environnementales, pardon. Et la principale, quand même, qui est retrouvée, effectivement, c'est d'avoir subi dans l'enfance des traumatismes répétés. Ça, c'est quand même le principal facteur de risque, d'ailleurs modifiable au sens, on va dire, pour la société quand même, qui augmente le risque de développer un trouble bipolaire. Ça maintenant, c'est assez bien connu. Ça augmente le risque de tous les troubles psychiatriques, mais en particulier vraiment du trouble bipolaire.
Bonsoir Christian.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à tous. Merci de prendre mon appel. En fait, c'était juste pour dire que ma femme est bipolaire et c'était déclaré il y a pratiquement une dizaine d'années. Et maintenant, en fait, elle est traitée par un psychiatre au niveau de sa bipolarité et notamment par du valproate. Et donc, ce traitement est extrêmement efficace. Et du coup, en fait, elle n'a plus les phases d'excitation, de dépression, quoique des fois, ça se ressent encore. Maintenant, ce que je voulais dire, en fait, c'est notamment son psychiatre, parce qu'elle lui disait, moi, je me sens bien maintenant, il n'y a pas de problème. Et le psychiatre lui a dit, essayez d'arrêter les médicaments et vous allez voir. Donc ça veut dire qu'en fait...
Si c'est une bonne manière de dire les choses, mais enfin bon. Alors, je vous écoute, Christian.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus.
Ouais.
Voilà. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne manière. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est tout simplement, en fait, il faut accepter que l'autre soit différent. Bon. Et je vais vous surprendre peut-être de ce côté-là, mais j'aime encore plus ma femme. Parce qu'elle est différente.
Tant mieux pour vous, mon petit Christian.
Et c'est pas en fait, voilà, c'est. Je trouve que la bipolarité, il faut savoir l'accepter. L'accepter pour les autres également. Et c'est pas uniquement pour la personne en elle-même, mais c'est également en fait accepter que l'autre soit différent. Et c'est, vous savez, en fait, il y a des moments où c'est très difficile, hein, parce que quand effectivement on a des phases d'exaltation, des phases d'abattement. Quand il y a beaucoup de problèmes, par exemple, quand elle a des problèmes, elle sombre. Et donc là, en fait, il faut être là. Il faut être là pour lui dire, non. Voilà, en fait, il va y avoir, ça va être mieux, ça va remonter, et tout ça, quoi. Donc, c'était juste, en fait, témoigner de ça.
Ben, on a entendu, Christian, et on vous remercie pour votre joli témoignage. On vous embrasse, vous et votre femme. D'ailleurs, merci beaucoup, Christian. Il y a quelque chose qu'il dit, Christian. Alors, d'abord, j'aurais quand même qu'on revienne ensemble, Chantal Henry, sur son psy qu'il dit de manière un peu trop abrupte, selon moi. On croit que ça va avec les médicaments, mais vous allez voir, si vous arrêtez, vous allez voir qu'en fait, ça va pas. C'est très, très aide à dire comme ça. Pas s'il l'a dit exactement comme ça d'ailleurs. Mais ce que ça veut dire aussi surtout, c'est qu'il y a quelque chose qui est aussi du domaine de l'adhésion au traitement qui est extrêmement important quand on a un trouble bipolaire.
Parfois, c'est très compliqué pour un patient qui est très stable ou qui va avoir des fluctuations de l'humeur, mais finalement, qui n'impacte pas le fonctionnement, de se dire, mais finalement, je ne suis plus malade puisque je n'ai plus d'épisode et donc, est-ce que je peux me passer du traitement? En fait, la vulnérabilité persiste. Mm-hmm. Et donc, c'est comme l'hypertension. Si on arrête les antihypertenseurs, effectivement, on va avoir la tension qui va remonter et donc la vulnérabilité va persister. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement, et c'est ce qu'on peut entendre dans ce témoignage, c'est que des traitements peuvent arriver à stabiliser les personnes et à faire en sorte qu'il y ait des fluctuations, mais finalement, qui ne vont pas entraîner un dysfonctionnement ou en tous les cas un handicap et conduire à des hospitalisations.
Est-ce que ça bouge avec l'âge, hein, qu'il faut changer de médicament peut-être, cette stabilité dont parle Christian là pour sa femme, et ben subitement, je veux certainement pas lui faire peur, d'ici 3-4 ans, j'en sais rien, finalement ce sera plus trop les bons dosages, il faut revoir ça. Ça bouge avec l'âge ou quand on a trouvé quelque chose, on peut partir jusqu'au bout de la vie avec ça?
Alors en général...
Victoria qui fait non avec la tête.
quand on a... On peut être plus ou moins bon répondeur à certains traitements, mais en général, effectivement, on arrive à avoir une stabilité. Alors, de temps en temps, il peut y avoir un échappement, ou alors certains effets secondaires peuvent entraîner un changement de traitement. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué, puisqu'il va falloir réajuster un traitement. Et il peut y avoir des oscillations et des décompensations à ce moment-là.
Je vous voyais effectivement intervenir doucement, Victoria Leroy, là-dessus. Moi, je me demandais même si on n'a pas de toute façon toujours la tentation d'arrêter le traitement, en fait, quand on a un trouble bipolaire, parce que de fait, on avance et on va bien. Est-ce qu'à un moment ou un autre, dans une vie porteur de troubles bipolaires, il n'y a pas toujours un moment où on se dit « je m'en fous, j'arrête ».
Je pense que ça dépend vraiment des personnes, mais de ce que je constate, encore une fois, aussi dans la assez grande communauté qu'on a construite. Mais si je parle de mon parcours, je faisais un peu oui et non de la tête pour plusieurs raisons. J'ai eu la chance, malgré tout, d'être diagnostiquée assez jeune. À l'âge de 20 ans, déjà, on a mis du temps à trouver un traitement. Et même une fois qu'on l'a trouvé, et encore aujourd'hui, en tout cas, moi, je vois qu'on a quand même des ajustements assez réguliers à faire, ce qui ne veut pas dire nécessairement changer du tout. Mais effectivement, là, je rejoins ce que vous disiez. C'est moi, j'ai dû radicalement changer de traitement à cause d'effets secondaires qui sont devenus trop graves et trop handicapants pour le coup, et ça a été très coûteux et très difficile. Et après, est-ce qu'on a toujours envie d'arrêter son traitement? Ça dépend. Il y a 3 ans, je vous aurais dit oui. J'avais tout le temps envie d'arrêter mon traitement. Déjà, j'avais une nostalgie des phases hypomane ou maniaque, ce que je sais pas mal de personnes peuvent connaître. Parce que finalement, c'est un peu être l'humain que la société nous amène, nous conseille d'être. Hein. On se lève à 5h du matin, on manque pas de sommeil, on a tout le temps des idées, on a tout le temps une vie sociale, on est productif. Bon, voilà. Donc il y a cette nostalgie qu'il faut arriver à dépasser. Et puis, donc il se trouve que j'ai eu moi une phase où j'ai diminué le traitement en accord avec mon psychiatre et je l'ai amèrement regretté. Donc aujourd'hui, non, j'ai pas tellement envie d'arrêter mon traitement. J'aimerais guérir. Mais je sais que la maladie est là, donc est-ce que j'ai envie d'arrêter le traitement, sachant ce que ça me coûte? Non. Par contre, est-ce que j'ai des nostalgies de certains états? Oui. Et puis une dernière chose que j'ajouterais, c'est que c'est un peu l'inverse, c'est que maintenant j'ai peur de devoir arrêter le traitement si je souhaite notamment avoir un enfant, en tout cas la molécule, je ne dirais pas laquelle, parce que je trouve pas que c'est pas nécessairement une très bonne pratique de dire ce qu'on prend, parce qu'il y a eu chacun son propre traitement. Ouais, ouais. Dans mon cas, je devrais l'arrêter si je souhaite fonder une famille. Et c'est une vraie question.
Tout le temps de la grossesse, du début jusqu'à la fin.
Ouais. Et qui me fait peur déjà, et qui me fait peur et pour moi et pour mon couple et pour mon enfant. Donc ça, c'est une question particulière. Aussi.
On va y venir à la famille. Juste, il y a une chose qui me saute à l'esprit, Jocelyn Wenou, quand j'écoute Victoria Leroy, elle dit « j'aimerais bien guérir ». Est-ce que c'est un mot qu'on prononce pas devant les patients, le mot « guérir », quand on a un trouble bipolaire?
Pour l'instant, le trouble bipolaire, c'est une maladie chronique la polyarthrite rhumatoïde, on pourrait prendre d'autres maladies chroniques, mais dont on ne guérit pas en tout cas. Alors avec l'âge, ce qui peut quand même arriver, c'est qu'à partir d'un certain âge, il y a un peu moins de récurrence, un peu moins d'épisodes. Mais aujourd'hui, on n'a pas de guérison, on n'a pas de perspective comme ça.
Pour rebondir sur ce que vous disiez, Victoria Leroy, je voudrais qu'on écoute Nathalie. Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi, je voulais juste témoigner. J'ai un fils qui a aujourd'hui 27 ans, qui a été diagnostiqué bipolaire il y a à peu près 10 ans, 9 ans, je ne sais plus bien. Suite à un épisode d'exaltation, il a dû malheureusement être interne en psychiatrie pendant 5 jours. Il y a eu donc un diagnostic de posé. Il y avait déjà eu des troubles, hein, plein de troubles auparavant. Et en fait, ce qui m'a beaucoup frappée dans l'accompagnement, c'est d'abord effectivement les traitements qui sont proposés pour la bipolarité. Moi, en tout cas, le traitement que mon fils a eu, c'était matin, midi et soir, donc avec des horaires assez précis, qui correspondent malheureusement absolument pas à une vie d'adolescent ou d'adolescent, j'allais dire de jeune adulte, et qui, évidemment, empêche, j'allais dire, la prise de traitement au quotidien de façon correcte. Parce que quand on se couche à minuit, qu'on est ado et qu'on se lève à midi le week-end, on se repart concrètement à 8h du mat et à midi, c'est pas vrai. Se surajoute évidemment l'idée que quand on est adolescent, enfin, en tout cas pour mon fils, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du déni total de la maladie. Et puis j'ai beaucoup souffert, beaucoup souffert de mes appels au secours aux diverses associations, hôpital psychiatrique, l'urgence psychiatrique, pompiers, etc. Quand moi j'étais démunie face à des exaltations qui étaient ingérables. Parce que j'étais impuissante, démunie, et qu'à côté, j'avais rien à m'accrocher, rien qui me disait faites ci, faites ça. Ben, voilà, et l'internement, enfin, pour moi, je le dis parce que je pense que chaque parent, ça a été, enfin, pour moi, c'est terrible, quoi, d'avoir du coup interné mon fils. C'était la seule. En fait, j'attendais presque qu'il se passe quelque chose de grave sur la voie publique, quelque part, pour qu'en fait, il y ait quelqu'un qui me dise ah, enfin, il y a quelque chose et on va faire quelque chose.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Vraiment, merci Nathalie. Moi, j'entends totalement ce que dit Nathalie Chantal-Henri sur qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche face à son fils qui est dans une phase d'exaltation plus. On ne sait pas quoi faire, on a peur qu'il se fasse mal probablement dans cette exaltation-là. Est-ce que pour autant, on ne va pas l'attacher ? Enfin, ça doit être incroyablement difficile.
C'est extrêmement culpabilisant aussi, effectivement, pour les parents ou pour un apparenté de faire hospitaliser un proche. Ça peut parfois se faire sous le mode de la contrainte, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, je pense, c'est que à un moment donné, on n'a pas le choix. Dans un épisode aigu, qu'il soit maniaque ou qu'il soit dépressif, il faut protéger la personne, puisque ensuite, il va revenir en fait, de manière à son fonctionnement de base, il va pouvoir fonctionner, et Victoria est un très bel exemple, en fait. Donc, ce qu'il faut s'accrocher à ça, c'est que oui, dans les phases aiguës, il faut pouvoir les contrôler. Et puis ensuite, ce que cette auditrice disait sur les traitements, je pense qu'en fonction de l'âge, en fonction de beaucoup de critères, il faut peut-être simplifier au maximum les traitements, et c'est une alliance qu'on doit créer avec le patient et de pas lui rendre la vie impossible avec les traitements. Parfois, on peut simplifier pour rendre acceptable en fait ces traitements et fixer des objectifs avec le patient, mais aussi avec les apparentés. Et quand j'entends cette auditrice démunie, je pense qu'il faut qu'elle puisse interagir avec l'équipe soignante, mais aussi avec les aidants. Et moi, je crois beaucoup, en fait, à des structures comme
la Maison Perchée,
etc., ou les associations de patients pour venir en aide, justement, aux apparentés.
Comment qu'est-ce que vous dites, vous, aux apparentés, Victoria Leroy, à la Maison Perchée, qui ont ce genre de questions? Comment on répond à ça? Je ne sais pas s'il y a une réponse par ailleurs à donner. Il n'y a pas une réponse standard, évidemment, c'est très compliqué en fonction du comportement de son fils, sa fille, son père, sa mère. Enfin.
Alors il y a quelque chose en tout cas qui se passe à la Maison Perchée qui est assez enrichissant. Je ne sais pas si c'est les réponses que les gens attendent ou pas, mais qui est qu'on a un programme qui s'appelle La Boussole, donc qui vient compléter notre programme La Canopée, qui s'adresse aux concernés. Et en fait, il se différencie de d'autres associations de proches qui, en général, rassemblent et surtout des parents. En fait, nous, à la Maison Perchée, ce qu'on a souhaité faire, c'est que parents, mais aussi enfants d'eux, frères et sœurs, amoureux d'eux, on a même parfois des meilleurs amis ou une tante qui est plus impliquée que la maman, qui se retrouvent. Donc déjà, ça permet de partager des vécus en tant que proches qui sont quand même divergents, et notamment parce que du coup, on n'est pas forcément sur la même génération. Et puis après, il y a quelque chose d'autre qui se passe, qui est qu'ils viennent à la rencontre de nous, des personnes qui sont concernées. Et il y a quelque chose d'assez fort qui se passe, en fait, quand nous, en tant que concernés, on peut rencontrer un proche qui n'est pas le nôtre et donc on n'a pas le même affect. Mmh. Et vice-versa, je pense que ça permet, au contraire, par moment, d'avoir un dialogue plus dénoué, d'oser, d'oser poser des questions qu'on ne pose pas forcément. Donc là, j'ai aucune réponse toute faite à donner. J'avoue que je ne sais même plus exactement s'il y avait une question.
Non,
mais en tout cas, je pense que il faut créer plus de dialogue, ça c'est sûr. On oublie trop souvent l'entourage, ou alors on oppose souvent l'entourage. Et si je peux toucher un mot par rapport à cette question quand même qui me revient, que j'entendais, de la difficulté de mettre une personne sous contrainte ou d'hospitaliser quelqu'un contre son gré, c'est une question qui revient régulièrement. Mmh, mmh. Et c'est là aussi où justement l'échange avec quelqu'un qui n'est pas directement son parent peut être très enrichissant. Mmh. Parce que on peut comprendre pourquoi on l'a fait pour nous. Oh, ouais. Et on peut aussi, en tant que parent, comprendre que en tant que parent en général, que l'enfant ne nous en veut pas forcément en tant que son parent, il en veut à la situation. Par exemple, moi, je vais répondre à quelque chose de personnel, mais j'ai été hospitalisée sous contrainte par ma mère, qui a même pas voulu signer le papier tellement elle n'était pas capable de le faire et qu'elle a envoyé mon beau-père. Je lui en ai pas voulu, en fait, de m'avoir hospitalisée sous contrainte. J'en ai voulu à la manière dont mon hospitalisation personnellement s'est passée, parce que personnellement ça s'est mal passé, et je ne dis pas qu'il y en avait jamais besoin. Et en fait, je pense que souvent il n'y a même pas ce dialogue, parce qu'on n'ose pas en parler, on met ça sous le tapis et on ne veut plus jamais en reparler.
Jean Wenaud, il y a plein de questions qui nous viennent au fil de cette émission et qui parlent de symptômes, en fait. Comme si, effectivement, il y avait cette espèce de facilité, comme on le disait tout à l'heure, à allumer une espèce de warning qui dirait attention. Est-ce qu'on peut réellement parler de symptômes? Est-ce que ça a du sens de parler de symptômes?
De symptômes qui doivent alarmer. Ouais. Oui, en fait, on apprend, enfin, les patients apprennent déjà eux-mêmes à force de répétition des épisodes, ou bien justement par les groupes de psychoéducation, par exemple, qui ont montré dans la recherche une diminution du nombre de rechutes, à identifier certains symptômes, en particulier sur le sommeil, le raccourcissement du sommeil, sur l'énergie qui augmente, sur une modification un peu de comportement. Si, il y a beaucoup de symptômes, on peut vraiment parler de symptômes qui doivent alarmer, ou en tout cas faire suggérer qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans les rythmes, le traitement, etc.
Et on a parlé de diagnostic trop tardif. Est-ce que ça existe, un diagnostic trop précoce, ou on se dit que, ou encore une fois, à quel moment, pour éviter de confondre avec un gamin qui est suractif ou des choses comme ça, à quel moment on peut avoir une meilleure certitude? Je vous pose la question parce que, encore une fois, on a l'impression dans tous les appels ici que les premiers signes et symptômes arrivent au tout début de l'âge adulte, fin d'adolescence, début d'âge adulte. Après, le diagnostic, c'est autre chose. Mais donc, est-ce que ça veut dire qu'avant, en fait, c'est pas décelable ou c'est trop compliqué, Jocelyn Wenaud?
Alors, effectivement, l'âge de début typique, c'est entre 15 et 25 ans. Avant, alors, après, quand on recherche dans l'enfance, on peut retrouver des choses très, très, très peu spécifiques, un peu d'hyperactivité. Mais enfin, c'est très, très vague, très, très flou. Et les premiers symptômes, effectivement, que ce soit de la dépression ou de la manie, ça apparaît entre 15 et 25 ans. Et avant, il y a effectivement, pas grand-chose.
Emmanuel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Il nous reste à peine plus d'une minute, Emmanuel. Je vous en supplie, mais on est content de vous entendre quand même. Allez-y.
Je vais aller très très vite. Je suis médecin généraliste et donc, moi, je suis confrontée au diagnostic, au repérage, au suivi, aux hospitalisations, avec un maillage territorial psychiatrique difficile. Donc, c'est très très difficile de suivre tout ça et d'avoir un temps d'écoute suffisant et nécessaire, surtout à l'heure actuelle. Et en fait, les jeunes hommes, jeunes adolescents, parce que moi j'ai des problèmes avec quelques-uns, je vais sortir pour qu'il y ait moins des cours. Et en fait, il y a beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes toxicomanes. Et on sait très bien, ils ont beaucoup de symptômes évocateurs d'une maladie psychomaniaco-dépressive. Et en fait, on n'arrive pas à les diagnostiquer, on n'arrive pas à les accompagner. Et ils sont très, très réticents, malgré les hospitalisations et un bon suivi par ailleurs.
Merci beaucoup, Emmanuel, merci beaucoup. Et pousser sur ses addictions, en fait. C'est l'une des conséquences, non, de ce que j'en ai lu, Chantal Henry.
Alors, la prise de toxique peut déclencher des épisodes, mais peut venir aussi aggraver les troubles. Et le médecin généraliste est en première ligne, mais je crois que dès qu'il suspecte un trouble bipolaire, il doit adresser vers un psychiatre.
En tout cas, on a été ravis d'en parler ce soir, ravis de vous entendre les uns et les autres, et vous aussi, pour vos très nombreux appels. On espère qu'on a pu vous être utile, et je crois qu'on l'a été. Merci beaucoup.